respect de leur comportement et bien appliquer pour une monde qui change.
Ce qui va se passer en cas où les changements cognitifs,
de moi une observatrice du genre humain.
On va maintenant avoir les cratères à la surface des astéroïdes.
On travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode à la rencontre d'un acteur de science. Je m'appelle Savinien, je suis actuellement à Marseille, plus précisément à Château Gombert, où j'ai trouvé David Nébouy, un modélisateur extraordinaire au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Allez, on y va.
Bonjour David. Vous êtes ingénieur de recherche en traitement d'images et en reconstruction 3D, ici au LAM. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre travail ?
Eh bien, bonjour Savinien. Donc oui, je suis chercheur au CNRS, ici au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et donc je fais de la reconstruction 3D à haute résolution dans le cadre de la mission spatiale Rosetta.
Alors, que reconstruisez-vous en ce moment ?
Donc, je vais commencer par faire un petit rappel sur la mission Rosetta. Donc, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne qui a envoyé une sonde spatiale en 2004 pour rejoindre une comète qui s'appelle 67P et donc l'étudier. La mission a orbité autour de la comète pendant 2 ans, de son point le plus loin du Soleil à son point le plus près, qui s'appelle le Périhélie. Et c'est là où l'activité cométaire est la plus importante. Donc le Soleil réchauffe la surface et étant donné les conditions de température et de pression, la glace d'eau passe directement de l'état solide à l'état gazeux et c'est ce qui crée ces fameux jets de poussière et d'eau à l'état gazeux qui forment les queues des comètes qui peuvent atteindre une distance de plusieurs millions de kilomètres et qu'on peut aussi parfois voir depuis la Terre. Et donc dans ce cadre-là, moi je fais de la reconstruction 3D de la surface de la comète. Et on peut observer des changements de topographie, justement, entre avant le passage au Périhélie et après le passage au Périhélie. Cette reconstruction 3D, elle est faite grâce à une méthode qui a été développée ici, à Marseille, au LAM, et qui permet d'obtenir des très bons modèles 3D à haute résolution. Également, je fais du développement logiciel pour du rendu 3D temps réel de modèles de forme à haute résolution. Et donc ce logiciel, il permet à son utilisateur d'explorer des zones locales de la comète avec un bon aperçu de l'environnement à échelle humaine. Donc il y a un mode de visualisation aussi qui est possible sur écran 3D pour une meilleure immersion. Et enfin, troisième point, j'ai aussi une relation avec une entreprise externe qui développe des outils de réalité virtuelle, donc qui fonctionnent avec des casques de réalité virtuelle. Et nous, en fait, on va tester leur logiciel qu'ils ont développé à partir de nos données 3D sur la mission Rosetta.
Le Périhélie, c'est le terme quand Rosetta est au plus près de...
Quand la comète est au plus près du Soleil, oui.
D'accord. Quelles sont les applications de votre travail ? À quoi ça va servir ?
Et donc, à partir des modèles 3D, ensuite des scientifiques, l'équivalent un petit peu des géologues sur Terre, vont pouvoir étudier le terrain, donc la surface de la comète, et pouvoir faire des mesures. Donc, par exemple, sur la comète, il a été assez surprenant de trouver des structures topographiques comme des dunes. Donc, c'était assez surprenant de trouver ce genre de structure sur une comète. A priori, ces dunes ont été formées... à partir donc des dégazages dont je parlais tout à l'heure, donc ce flux d'air ou de gaz qui a un mouvement horizontal par rapport à la surface et qui va pouvoir créer ce genre de structure. Donc à partir d'un modèle 3D, on va pouvoir mesurer la période de ces dunes, leur hauteur et également peut-être faire quelques calculs pour mesurer le transport de matériaux qui créent ces dunes.
Et concernant la réalité virtuelle, quelles en sont les applications scientifiques ?
Alors, la réalité virtuelle, le grand avantage, c'est que, justement, elle permet à l'utilisateur de se projeter dans un environnement dont il n'a pas forcément accès. Et donc, en astrophysique, c'est très utile, puisque, par exemple, on va pouvoir observer et se rendre compte, à échelle humaine, de la topographie et de l'environnement cométaire, un petit peu comme si on était sur place. Donc, c'est un outil qui peut apporter beaucoup pour de la visualisation et comprendre des phénomènes.
L'entreprise avec qui vous travaillez, c'est une entreprise qui construit des casques de réalité virtuelle ou...
Non, l'entreprise développe des outils, donc des logiciels qui utilisent des casques grand public.
Cette réalité virtuelle où on se trouve sur la surface de la comète, elle est libre d'accès ?
Alors non, elle n'est pas libre d'accès. En fait, on a acheté une licence directement à l'entreprise. Voilà.
Donc si moi je suis possesseur d'un casque de réalité virtuelle, est-ce que c'est possible depuis chez moi de m'immerger sur la surface de la comète ?
Alors pour l'instant, l'outil est encore au stade prototype. De ce que je sais, je pense qu'il travaille plus avec d'autres entreprises ou des structures professionnelles. Mais peut-être qu'à terme, un jour, ils vendront des licences grand public également.
Je vais changer un petit peu de sujet pour qu'on puisse s'intéresser à qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier.
Alors, moi, j'ai commencé mes études en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, j'ai fait des classes PCSI, PSI étoile, qui m'ont ouvert les portes de Télécom Saint-Étienne, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec spécialité développement d'applications pour l'image. Et donc, c'est cette thématique de traitement d'image, un petit peu, qui m'a suivi tout au long de ma formation. J'ai pu faire aussi, en parallèle de ma dernière année ingénieur, un Master 2 orienté recherche sur les thèmes images, vision, signal. Et ceci m'a ouvert les portes du monde de la recherche. Alors tout d'abord avec un stage orienté recherche et développement Technicolor R&D, où j'ai travaillé sur de l'acquisition et calibration d'images et reconstruction 3D temps réel pour le cinéma. Ensuite, je me suis lancé dans une thèse CIFRE avec le CNRS et Gemalto, donc qui sont leaders en sécurité numérique dans le domaine de la carte à puce. Et j'ai travaillé sur l'évaluation de la qualité d'impression par des traitements d'images. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de continuer dans le monde de la recherche par un postdoc chercheur au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, pour du traitement d'images et de la reconstruction 3D dans le domaine de l'astrophysique.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la reconstruction d'images en astrophysique par rapport aux autres métiers que vous avez pu faire avant ?
Alors, j'apprécie particulièrement ce domaine d'application qu'est l'astrophysique. Pour moi, c'était un domaine complètement nouveau quand je suis arrivé au laboratoire. Et je trouve que c'est une chance de pouvoir travailler sur des images telles que celles de la mission Rosetta. Également, j'apprécie d'avoir la chance de développer des outils innovants pour la communauté de la mission Rosetta.
Est-ce que dans votre travail, vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse ?
Alors, une des grandes questions toujours sans réponse, pour moi, ça serait d'où vient la vie sur Terre ? D'où venons-nous ? Ou encore, est-ce que la vie sur Terre est-elle d'origine extraterrestre ? Alors, une des thèses avancées serait que oui, la vie pourrait provenir des comètes, justement. Et notamment, un des grands résultats de la mission Rosetta, c'est d'avoir trouvé sur place, dans les poussières rejetées dans ces fameux jets par la comète 67P, des traces de ces briques élémentaires nécessaires à la fabrication des protéines qui sont à la base de la vie sur Terre, telle que nous la connaissons. Donc c'est peut-être ce genre de comète qui a bombardé la Terre après sa formation il y a 4 milliards d'années. Et la Terre se trouvant à une distance raisonnable de son étoile, d'autres éléments indispensables comme l'eau liquide étaient également possibles.
Est-ce que vous pensez que votre travail pourrait participer à la résolution de cette question ?
Alors mon travail directement peut-être pas. Puisque moi je m'intéresse vraiment à la structure de la surface. Mais voilà, Rosetta n'embarquait pas seulement des caméras qui permettent de faire la reconstruction 3D, elle embarquait tout un tas d'autres instruments, dont ceux qui ont permis de détecter ces fameuses traces potentiellement à l'origine de la vie.
Si vous deviez qualifier votre travail en un mot, qu'est-ce que ce serait ?
Alors peut-être le mot découverte, parce que c'est un travail sur des images, comme je disais, inédites, d'un objet qui fait quelques kilomètres, mais qui voyage dans notre système solaire. Et on a des clichés historiques et fantastiques.
Eh bien, nous approchons déjà de la fin de cet épisode. Merci beaucoup David pour cette interview.
Merci Savinia.
Et voilà pour l'interview de David Nebouy. Merci à tous et à la prochaine pour un nouveau podcast.